إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على صفوة الخلق المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وسن سنته وارتضى بهديه إلى يوم الدين، واشمن اللهم معهم بعفوك وغفرانك يا أرحم الراحمين. أما بعد، donc aujourd'hui nous allons continuer c'est ce qu'on avait commencé, mais voilà, on rentre un petit peu plus dans les détails. Maintenant on va attaquer sujet par sujet pour un peu mieux comprendre. Donc avant de commencer à parler de la religion en tant que thème, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un religieux et un non religieux pour pouvoir les distinguer, ce qui fait rentrer dans la religion et ce qui fait en sortir. Et donc on va parler aujourd'hui de la mécréance, ce qu'on appelle en arabe le kofr. Alors avant de commencer à en parler, il faut le définir. Alors, la notion de mécréance telle qu'elle est comprise dans l'islam n'est pas la même telle qu'elle est comprise dans la religion chrétienne, dans ce sens que dans la religion chrétienne, la mécréance, c'est de refuser de croire en Dieu ou de renier Dieu. Dans l'islam, c'est une des parties de la mécréance, ce n'est pas la mécréance en total. Pour l'islam, le terme de kofr, pour vous comprenez l'origine, c'est le terme veut dire caché. Kafara, c'est caché. C'est cacher quelque chose. Donc celui qui cache quelque chose, il sait qu'elle est là. Et ça veut dire qu'il ne la renie pas. Il sait qu'elle est là, mais il la cache et il dit « Ah non, mais elle n'est pas là. » Mais lui, il le sait. Donc il y a une notion d'être sûr qu'elle existe, mais de refuser. Donc le terme le plus proche pour dire de la mécréance, c'est plutôt le mot négation, c'est négationnisme. La mécréance, ma fille est d'accord avec moi, c'est le mot négationnisme, c'est-à-dire le négationniste, c'est celui qui sait que ça a eu lieu et qui renie. Donc c'est le mot kofr. Un sens plutôt de négationniste que plutôt de sens de mécréance. Et en arabe, par exemple, on utilise le mot kofr pour désigner, on dit kafir. Kafir, ça, on peut traduire ça par mécréant, mais le mot kafir en arabe, dans les langues anciennes, on retrouve ça dans certains poèmes et tout, c'est un agriculteur. C'est celui qui plante. Pourquoi il plante ? Parce qu'il cache la graine dans le sol pour qu'elle germe. On appelait les agriculteurs des kofar. Et on dit kafar al-layl, la nuit, enfin mécréant, c'est pas le mot, ça veut dire que la nuit devient très sombre. Elle cache tout ce qu'on voit autour, donc une nuit très sombre, on dit laylatun kafira, ça veut dire elle couvre tout, on voit plus rien. Donc vous voyez, le mot en lui-même a un sens de cacher plutôt le truc. Alors pourquoi ce terme-là a été utilisé ? C'est à cause d'un verset coranique qui se trouve dans sourate Al-A'raf et qui dit wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna in taqulu yawm al-qiyamati inna kunna min al-ghafilin. Donc ce verset là dit, et quand Dieu, c'est un moment ontologique, c'est au moment de la création quand Dieu a créé Adam, il a pris en fait il a sorti d'Adam, puisque nous sommes tous descendants d'Adam, toute la création de l'humanité, d'Adam jusqu'au dernier homme. Il les a mis devant lui et il les a fait attester qu'il était leur Seigneur. Et toute l'humanité a attesté à ce moment-là, ils ont dit, tu es notre Dieu. Nous, nous croyons. Et donc, celui qui va venir sur terre de nos jours et qui dit Dieu n'existe pas, il renie l'attestation qu'il a faite avant. C'est pour ça qu'on appelle ça en islam l'attestation de foi, shahad. Shahad, on ne peut pas attester de quelque chose qu'on n'a pas vu. Je ne peux pas te dire j'ai été témoin de quelque chose auquel je n'ai pas assisté. Donc quand je dis ashhadu, j'atteste, c'est-à-dire j'atteste de quelque chose que j'ai vécu. Elle est peut-être antérieure, je n'ai peut-être pas. Mais j'atteste de quelque chose que l'homme a déjà vécu. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça en islam une attestation de foi. C'est-à-dire que on a été un moment présent devant ce. Donc Dieu a réuni toute l'humanité et il les a fait attester. Donc quand on est après sur terre et qu'on dit que Dieu n'existe pas ou j'y crois pas ou un truc, bah on renie l'attestation qu'on a fait devant le Seigneur. Donc ça c'est l'origine du terme kufr, mécréance. Donc, je préférerais utiliser le terme de négation plutôt que mécréance. Alors, en termes juridiques, la mécréance comporte deux grands thèmes, enfin, deux catégories un peu différentes. La première, ce qu'on appelle la vraie mécréance, ou le kufr al-akbar, la grande mécréance, c'est celle qui fait sortir de l'islam. C'est-à-dire que celui qui acquiert cette qualité-là, il est en sortie. Il y a le kufr al-asr, c'est la petite mécréance, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont, plutôt qui n'est pas sorti de l'islam, mais dont la foi est petite. Ça diminue de la foi, ça le grignote. C'est-à-dire que sa foi n'est pas aussi, ne devrait pas comme, être comme les individus, enfin comme Dieu l'exige de nous. Donc on va commencer par le kufr al-azam ou le kufr al-akbar. Donc celui-là, il est de plusieurs catégories, ce qu'on va les voir tous, et qui rend la personne non croyante totalement. Je veux dire, celle qui a une qualité de celle-là, il est vraiment pas croyant. Même s'il dit, j'atteste que tu existes et tout, hein, il n'est pas croyant, il sort. Donc, c'est plusieurs catégories. La première, évidemment la plus évidente, c'est celle de l'attestation du mensonge. C'est de dire, Dieu n'existe pas. Évidemment, c'est la première des catégories. Celui qui dit, Dieu n'existe pas, il n'est pas croyant du tout. On ne peut pas imaginer que quelqu'un dise Dieu n'existe pas, il est croyant. Donc la première, c'est le refus de reconnaître l'existence de Dieu. C'est celle qui fait la plus grande croyance. Et c'est celle que Dieu ne pardonne pas du tout. Il ne pardonne pas dans l'état. Si après la personne change d'état, évidemment, elle est pas. Alors, ceux qui renient Dieu totalement, le comportement de l'être humain, c'est de ne pas, enfin d'un musulman, je parle en général évidemment du musulman, c'est de dire, il reconnaît qu'il n'est pas croyant, donc nous le considérons comme non croyant. Mais ça n'ouvre pas un combat ou un conflit avec lui particulier, du moment qu'il ne nous combatte pas, évidemment. Donc pour nous, il dit je crois pas en Dieu, donc il est mécréant, ça s'arrête là. C'est-à-dire on cherche à établir une paix dans la fraternité adamique, c'est-à-dire nous sommes tous les deux frères, de cause de nos origines, nous sommes descendants d'Adam, mais on ne peut pas être frères de religion, et donc à ce moment-là, on établit une paix adamique avec lui, c'est-à-dire que tout simplement on considère comme un être humain et on le traite comme un être humain, enfin c'est tout. Donc ça a d'autres conséquences, par exemple. Pour certaines pratiques, c'est par exemple, évident, un musulman ou une musulmane, que ce soit un homme, une femme, ne peut pas épouser un mécréant. Ça, c'est admis par tout le monde, on ne peut pas épouser quelqu'un qui dit Dieu n'existe pas. Pourquoi ? Parce que on n'a pas de rapport avec lui. On ne peut pas. Le principe du mariage, les gens souvent sont assez choqués par ça. Mais le principe du mariage, c'est pas on se marie par amour. C'est très beau de se marier par amour. Mais le projet du mariage est un projet de construction. On construit quelque chose. On construit un projet commun entre l'homme et la femme. Il est évident que c'est les bases de la construction. De l'homme et la femme ne peuvent pas coïncider, on ne peut pas construire. Mais je pense que c'est pareil dans les autres religions. Hein. Toutes les religions n'acceptent pas de d'épouser quelqu'un qui ne croit en rien. S'il peut avoir une croyance différente, on a des bases communes, on peut construire quand même. Mais une personne qui ne croit pas du tout, on ne peut pas construire avec eux.
Alors, chez nous, c'est le mariage religieux que le mariage civil.
Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Et donc, on ne peut dire que quelqu'un est mécréant dans ce cas-là que s'il le déclare lui-même. J'insiste beaucoup sur cette chose-là. Il faut qu'il dise « je ne crois pas en Dieu ». C'est-à-dire, ce n'est pas de dire « je pense qu'il ne croit pas en Dieu » ou « il s'en contre. Ouais. Non, il faut qu'il le déclare. Qu'il le déclare ouvertement de dire « je ne crois pas en Dieu ». Et le verset coranique, c'est celui qui dit فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَشْهَدُونَ. C'est-à-dire, c'est un verset coranique qui dit au prophète, ils ne te traitent pas de menteur, mais en fait, ils ne croient pas à la révélation de Dieu. Ils n'y croient pas du tout. C'est-à-dire qu'ils refusent complètement de croire. À tout, on dit bon, à la création c'est dû au hasard, enfin il y a rien qui prouve l'existence de Dieu. Donc ça c'est le premier. La deuxième catégorie c'est du refus, c'est la mécréance du refus, c'est-à-dire de celui qui dit je refuse. Le premier dit Dieu n'existe pas, le deuxième dit je refuse que Dieu existe. C'est différent. Le premier a une conviction, mais l'autre, je veux dire, même si vous me prouvez qu'il existe, je vous dirai que moi je refuse de vous dire qu'il existe. Ça, c'est un autre niveau. Donc, on peut les mettre semblables, mais quand même, c'est deux niveaux vraiment différents. Le premier a une conviction, et une conviction, on peut imaginer à la limite celui qui dit Dieu n'existe pas, si un jour il se retrouve devant une preuve, il peut l'accepter. D'accord ? Mais le deuxième, il dit « Je refuse ». Il n'y a pas, je veux dire, vous ne pouvez pas le présenter toutes les preuves que vous voulez, il ne peut pas.
Oui. Mais comme en ce moment, avec, mettons, ce qui s'est passé à Haïti, eh bien, pour certains...
Voilà, ils redécouvrent Dieu.
Il y en a certains qui redécouvrent d'autres. Il y a des
et d'autres qui le reprochent à Dieu ce qui est arrivé. Exactement, exactement, c'est exactement ça. Donc le refus est en fait un refus catégorique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un. Alors je vais dire tout de suite le troisième parce qu'on va les rassembler ensemble. C'est la mécréance de l'orgueil, parce que on peut dire que celui qui refuse Dieu, il le fait aussi peut-être par orgueil. L'orgueil c'est un des choses kibr, c'est lui qui il préfère avancer. Il préfère avancer, enfin, son orgueil à lui, sa propre personne et son idée, à toute vérité. Et donc, les deux sont semblables, bien que des fois, ils n'ont rien à voir. On peut dire, je refuse l'existence de Dieu, pas forcément par orgueil, pas forcément. Prenez par exemple quelqu'un de scientifique, il va dire... moi, il faut que vous me donniez une preuve tangible de l'existence de Dieu. Donnez-moi une preuve scientifique, je vais y croire. Donnez-moi une preuve tangible de la réalité de l'amour. Je ne vois pas comment on peut trouver une alate. Donc, mais le deuxième, c'est parce que lui-même a un problème, enfin, c'est sa propre personnalité, son orgueil à lui, qui lui refuse de croire. Par exemple, si on prend un exemple biblique et coranique, les gens d'Égypte, du temps de Pharaon, qui ont vu les 9 plaies s'abattre sur eux, alors que c'était annoncé par Moïse, ils ont vu la colère de Dieu. Mais ils ont continué par orgueil, ils ont dit non, nous n'y croyons pas. Donc le verset coranique qui se révèle à Saint, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُدُوًا. Ils ont vu les 9 plaies, mais ils l'ont refusé. Là encore, on a le refus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, ils sont injustes envers eux-mêmes et par orgueil. Et par orgueil. C'est un peu ce qu'a dit Pharaon à Moïse quand il lui a dit il faut croire en Dieu. Il lui a dit أَنُؤْمِنُ لِرَجُلَيْنِ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. Est-ce que nous allons croire deux hommes, parce que ils étaient Aaron et Moïse, on va croire qu'on doit se soumettre à un Dieu, alors que votre peuple, à vous, il nous prend mieux, nous, pour des dieux. Donc, ça, c'est l'orgueil. Et l'autre verset de Pharaon, il a dit, « Ana rabbukum al-a'la, je suis votre Dieu, c'est moi qui gouverne le Nil, je suis le Dieu de l'Égypte, je ne vais pas me soumettre à un autre Dieu, c'est moi le Dieu. » Donc, ça, c'est vraiment l'orgueil. C'est les gens qui... leur stature, disent, ah non, mais si, souvent. Alors l'orgueil, c'est aujourd'hui, c'est vraiment ce qui éloigne la plupart des gens de Dieu. Je ne veux pas me soumettre. Pourquoi je vais accepter les lois de quelque chose que je ne vois pas? Pourquoi j'accepterai les dieux de l'eau? Ça va me priver, on dit souvent, ça va me priver de ma liberté. Donc il voit ça comme ça. Alors qu'en fin de compte, toute la journée, on obéit à des lois. Continuellement, quand on prend sa voiture, on obéit à la loi de la route. Quand on est dans un magasin, dans un... on est continuellement, on obéit à toutes les lois. Donc l'orgueil est un des éléments qui est, je pense, à mon avis, le essentiel qui éloigne de la religion. Le prophète dit, celui qui a un atome d'orgueil, on lui n'entrera pas au paradis. Un atome, vous imaginez un atome. Un atome. Non mais, on parle d'un atome d'orgueil qui éloigne de Dieu, évidemment. Je pense que chacun pense qu'on a des qualités que les autres n'ont pas, et tout, mais ça c'est... N'empêche que même cet orgueil-là diminue de notre foi et de notre capacité de nous approcher de Dieu. Ça, je pense pas que quelqu'un qui a la foi puisse imaginer qu'un orgueil, même petit tel qu'il soit, puisse être quelque chose de plus dans sa foi. L'orgueil diminue la foi, c'est un peu comme le ver qui grignote la pomme ou la rouille qui touche le truc. Même si le bout de métal qu'on a, il est encore solide, lourd et on ne peut pas le bouger, on sait qu'à la longue, la rouille qui le touche finira par le consommer. Finira. Et même si elle ne le consomme pas entièrement, la partie qui est déjà atteinte est déjà consommée. Donc l'orgueil diminue de la nature de l'être humain, de la nature spirituelle de l'être humain, et surtout, elle va diminuer de la nature, de sa nature avec les autres humains. Parce que quelqu'un d'orgueilleux, il est forcément méprisant envers les autres. Ça, c'est très très important. Pour la religion musulmane, c'est une chose qui doit être tous les jours, 24 heures sur 24, l'objet du combat. On doit se battre contre son propre orgueil. Dès qu'on juge que l'autre, on y est supérieur à lui. Parce que nous, on fait la prière, lui, il ne fait pas. Ou moi, je fais plus que lui. Ou moi, je donne. Ou moi, je fais ceci, ou moi, cela. On diminue sa foi en Dieu. On la diminue. On diminue de ses qualités. C'est-à-dire que Dieu va, par cet orgueil-là, diminuer de notre qualité pour la donner à l'autre. Parce que nous le diminuons envers. Donc, on a la première catégorie, vous voyez, la catégorie qui, on se comporte avec l'individu parce qu'il se déclare comme ça. Il dit, je ne veux pas croire en Dieu ou Dieu n'existe pas. C'est une catégorie, ils s'annoncent eux-mêmes, on a un comportement avec eux. Et maintenant, la deuxième catégorie, c'est la catégorie qui est propre à nous. C'est-à-dire, moi je dis, je ne veux pas refuser parce que, je ne vois pas pourquoi je vais obéir à Dieu. Donc ça, c'est l'orgueil est vraiment quelque chose qui est qui démolit vraiment la foi. C'est un élément qu'il faut continuellement chasser à l'intérieur de moi. On retrouve des textes magnifiques dans les psaumes et tout ça qui parlent de l'orgueil, de la destruction de l'orgueil, travailler sur le fait de se rapprocher de Dieu en refusant l'orgueil. Pareil. Alors, pour vous donner un exemple plus près des musulmans pour que vous compreniez un peu mieux, donc c'est pas seulement dans les textes, ceci dans le comportement, c'est par exemple les gens qui ont refusé de croire en le prophète Mahomet, c'est tous par orgueil. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas une raison qui a un sens rationnel ou un élément, il y a un refusé. Par exemple, un de ses oncles qui était celui qui l'a combattu le plus, qui est Abu Lahab, donc qui est un verset qui est consacré à lui, il y a, avant la bataille de Badr, donc la première bataille où les musulmans ont été victorieux, il y a un homme qui vient le voir, il lui dit... on va combattre Mohammed, mais je voudrais poser une question. Est-ce qu'il est vraiment prophète ou pas? Parce que ce monsieur-là, il ne veut pas combattre un prophète. Donc il demande à celui qui dirige l'armée, donc à Abu Lahab, l'oncle du prophète, il lui dit, est-ce que Mohammed est sur la vraie voie ou c'est un menteur? Il lui dit, alors la réponse elle est étonnante, hein. Vous allez comprendre l'importance de l'orgueil. Il lui dit, Wallah, c'est, il jure par Dieu que Mohammed est un prophète. Wallahi innahu ala haqq. Il dit, il est sur la vérité. Mais, hein, voilà la raison, sa famille et la mienne, parce qu'ils sont un petit peu de d'une branche d'un frère et l'autre des descendants d'un autre frère, il dit, nos deux familles se sont battues. Enfin, battues pour les honneurs. Alors, il dit, ils ont accueilli les pèlerins, parce que c'était leur rôle à la Mecque, ils ont accueilli les pèlerins, nous avons accueilli. Ils les ont nourris, nous les avons nourris, ils ont donné à boire, nous les avons donné à boire. Et quand on était presque au même niveau, c'est-à-dire qu'au niveau des honneurs, leur famille, la mienne, on était, ils ont dit, nous, on a un prophète qui descend de nous. Wallah, je jure par Dieu que je n'y croirai jamais. Donc il le sait, mais il le refuse. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'orgueil. C'est l'orgueil qui a fait qu'Abu Lahab a refusé de croire au prophète. Il le sait, mais il refuse de croire par pur orgueil. C'est-à-dire, je ne veux pas. Et les grands de la Mecque, ils ont dit, oui, il est prophète, c'est pas important. Mais nous ne voulons pas croire à la prophétie. Pourquoi? Pourquoi avoir choisi un type pauvre, orphelin, au lieu d'avoir choisi l'homme le plus riche, le plus noble de la tribu? Pourquoi c'est pas le plus noble qui est prophète? C'est plus logique pour eux que ce soit le plus noble qui soit le prophète plutôt qu'un pauvre sans famille. Et voilà, c'est partout là. L'orgueil est toujours partout. Donc c'est l'orgueil et la base essentielle du refus de Quraysh, c'est-à-dire la tribu du prophète. Il ne faut pas oublier, je le dis toujours, que c'est l'orgueil qui est la base de la non-foi dans les prophètes au temps de leur vécu. C'est-à-dire que si nous prenons la période prophétique de la Mecque, qui s'étend à peu près sur 13 années, en 13 ans, des Mecquois, des gens qui habitaient la Mecque, il n'y en a même pas eu une centaine. Une centaine, vous imaginez, une centaine de personnes en 13 ans. Et alors, ça nous rappelle ce que faisait Noé. Il a prêché pendant son peuple pendant presque 1000 ans. Il en a sauvé combien? Une quarantaine, grosso modo. Donc vous voyez, c'est l'orgueil. Et l'autre orgueil, au début, quand la prophétie a commencé, les gens, ils ont dit, ils ont écouté. Ils ont dit oui. C'est une religion qui est bien, parce que bon, il n'y avait pas toutes les structures de la religion, mais ils ont dit. Et quand la prière est venue, il fallait se mettre tous sur un même rang à titre d'égalité. Ah, ils ont dit, ah non, je peux pas moi me mettre à côté de mon esclave et faire la prière, adorer le même Dieu. Mon esclave ne peut pas adorer le même Dieu que moi. Forcément, il faut qu'il y ait une séparation. Et ça a été le premier. C'est aussi une partie de l'orgueil. Vous voyez? C'est-à-dire, je refuse de me mettre au même niveau. On dit, mais nous adorons le même Dieu. Non, mais sur terre, on est différent. Moi, je suis le maître, lui, il est l'esclave. Il faut qu'il y ait une différenciation. C'est-à-dire que la tradition de l'époque consistait à ce que les esclaves adorent le Dieu du maître, mais avec un niveau inférieur. C'est moi, le maître est très proche du Dieu, et l'autre, il est serviteur. Mais là, quand deviennent tous serviteurs du même Dieu, là, il y a quelque chose qui, du point de vue orgueilleux, ne peut pas être... n'était pas acceptable. L'autre élément, c'est l'opposition. C'est celui qui s'oppose ouvertement. En fait, je dirais plutôt c'est de neutralité. Je dis pas que tu es prophète, mais je dis pas que tu n'es pas prophète. Je suis neutre. Je prends pas de position. Je dis pas que l'islam est une religion, mais je ne dis pas que c'est pas une religion. Je prends pas position. Ça aussi, c'est une manière de refuser et de reconnaître Dieu. Je dis pas que Dieu existe, mais je ne dis pas qu'il existe. Si vous voulez y croire, vous y croyez. Si vous voulez pas y croire, vous y croyez pas. Moi, je prends pas de position.
Différent de l'indifférence.
Oui, c'est différent de l'indifférence. C'est tout, y a, chaque élément est vraiment différent à chaque niveau. Il est vraiment différent. Il touche un élément de, du caractère de l'individu différent. Donc celui qui est, je dirais, neutre quelque part, ne, il ne peut pas croire. C'est ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est parti à Taïf, donc aller chercher secours dans une autre ville. Et quand ils l'ont accueilli, un homme lui a parlé, lui a dit si tu n'es pas prophète, je n'ai même pas, tu es trop vil pour que moi je t'écoute. Mais si tu es prophète, je suis moi trop vil pour t'écouter. Donc il prend pas position, il dit si tu n'es pas un prophète, donc j'ai pas à t'écouter, si tu es prophète, tu n'as pas à venir me parler. Voilà. Donc là, c'est toujours ça. C'est-à-dire, on dit oh, je prends pas position d'un côté et je prends pas position de l'autre côté. Quand on leur dit quand on leur dit une chose, ils disent oui, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Alors dans le chez les musulmans, aujourd'hui, quand on a la foi, un élément qui est quand on a la foi. C'est que, par exemple, quand quelqu'un, on lui présente un verset coranique, il dit, je ne dis pas qu'il, dit, qu'il m'interdit, je ne dis pas qu'il m'autorise. Donc, en fait, ça n'a rien, le verset coranique n'a pas d'influence sur moi. Moi, je suis neutre par rapport à cette situation-là. Je ne dis pas que c'est obligatoire, je ne dis pas que c'est interdit. Je ne prends pas position. Donc, évidemment, que dans les éléments de la foi de, du musulman, celui qui prend une position telle que celle-là, il ne peut pas être musulman. Quelque part, il sort. Ça, on le rencontre souvent par rapport au hadith. Le Coran, les gens le contestent peu. Il y a une unanimité sur sa véracité. Mais dans les hadiths, on a des hadiths qui sont classés en faible, bonne composition, un peu fort et tout. Il dit, je ne dis pas que le hadith il est faux, mais je ne dis pas qu'il est juste. C'est-à-dire, en fin de compte, je le rejette, parce que je n'y crois ni à sa véracité, ni à, en fait, c'est ça. Il est évident que si c'est un élément de la foi qui conduit à une pratique, à un règlement, et à une pratique de, du musulman, le fait de dire ça, il nous sort, évidemment, de l'islam. L'autre élément, c'est du doute. Là, on rentre dans quelqu'un qui a déjà la foi. Il doute de quelque chose. Il dit, moi je suis musulman, et vous savez, l'histoire des anges et tout, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ça c'est grave. Parce que ça c'est déjà quelqu'un qui a la foi. Donc on prend des éléments de base, de base de la foi, c'est-à-dire qui sont admis communément, qui sont clairement explicites. Je ne parle pas des choses qui ne sont pas clairement explicites. Mais en l'islam, la foi, elle se compose de 6 éléments. C'est la croyance en Dieu, en ses livres, tous ses livres, la Bible, le Coran, la Torah, à tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Moïse, jusqu'au prophète Mohammed, les livres, les anges et les démons, ils sont dans la même catégorie, le jour de la résurrection et la prédestination. Ça, c'est les 6 éléments de la foi. Ces 6 éléments-là doivent être compris, assimilés par tous les musulmans. Donc, l'unicité de Dieu, c'est le sommet, croire en tous les prophètes. Si un musulman, il dit que moi, je ne crois pas en Jésus, il sort de l'islam. Même s'il prend par exemple, ce que j'ai déjà expliqué, c'est par exemple pour la Bible, Salomon et David sont des rois. Pour les musulmans, c'est des prophètes. Si un musulman dit, mais en fin de compte, c'est pas des prophètes, c'est des rois, puisque la Bible les reconnaît comme tels, donc il prend un argument, il dit, pourquoi eux, c'est leur religion, ils disent c'est des rois, et nous disons c'est des prophètes. Je vais plutôt aller à ceux qui sont à qui ils sont venus, qui reconnaissent comme étant encore roi, jamais comme prophète. Donc moi, en tant que musulman, je dis non, c'est pas des prophètes, c'est des rois. Il sort automatiquement de l'islam. même s'ils continuent à pratiquer. Et tout. Pourquoi ? Parce que les versets coraniques, quand ils parlent des prophètes, Kazabatnous al-Mursalin, les gens, Kazabat Ad al-Mursalin, c'est un prophète qui s'appelle Ad, quand il en parle, il dit les gens, donc la tribu de Ad, a démenti les prophètes, mais en fait, ils n'ont pas démenti les prophètes, ils en ont démenti qu'un, c'est lui, Ad. Parce qu'ils ont dit, tu n'es pas prophète. Mais le Coran utilise Kazabat Ad al-Mursalin, en général, les prophètes, parce que celui qui refuse la prophétie d'un, refuse la prophétie de tous. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont qu'un seul message. Dieu est unique. Adorez Dieu, n'ayez pas d'autre divinité que lui. Tous les prophètes, depuis le premier jusqu'au dernier, sont venus qu'avec un message, le premier de la foi, l'unicité de Dieu, et de n'adorer qu'un Dieu. Donc c'est handicapant, il a tort, ils sont tous torts. Donc ça c'est le principe. Ça c'est le troisième élément, c'est les livres. Pourquoi les livres ? Tous les livres pour les musulmans sont des livres saints. On ne rentre pas dans le problème de savoir la véracité à chaque strophe, à chaque virgule et à chaque mot de chacun. On dit, quelqu'un il dit, moi je ne crois pas à la Bible, elle a été modifiée par les chrétiens. Ça ne doit pas changer l'idée que la Bible est un livre saint. Et que l'évangile sont des livres saints. Même s'ils ont été, ils ont subi une modification, nous devons les reconnaître comme des livres saints. C'est-à-dire que nous devons avoir une considération que c'est des livres saints, mais ce qu'ils aient subi des changements au cours du siècle, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre sujet. Parce que les musulmans n'ont pas l'obligation d'obéir à toutes les règles qui sont dans le Coran, dans la Bible ou dans la Torah. Donc on n'a pas à rentrer à dire oui, mais je ne vais pas obéir à quelque chose, un règlement dans la Bible qui est faux. Il dit non, mais on ne t'a pas obéir dans les règlements de la Bible, tu dois considérer que c'est un livre saint, puis c'est tout. Donc, on doit croire à tous les livres. Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément, à la partie non-voyante, c'est-à-dire la partie des anges et des démons, c'est un principe, il faut y croire tel que tel. Alors, si l'esprit ne peut pas le concevoir, ou notre raison ne peut pas le concevoir, ce n'est pas un élément qui doit rentrer, les preuves sont assez suffisantes du point de vue des anciens trucs pour l'admettre tel que tel. Le cinquième élément, c'est le jour du jugement, c'est-à-dire qu'à un moment à la fin, Dieu va nous juger. Celui qui dit il n'y aura pas de jugement, évidemment, il n'a pas la foi parce que ça n'explique pas toute la raison de notre comportement sur Terre si on n'est pas jugé à la fin sur cet élément-là. Donc celui qui renie le jour du jugement n'est pas croyant. Et le dernier élément, c'est la prédestination à al-qadar, donc en bien et en mal. C'est-à-dire que l'univers, il est régi par une loi divine, donc il n'y a rien qui arrive par hasard, il n'y a rien qui est dû à une génération spontanée, il y a une volonté divine dans le truc. Alors nous ne la connaissons pas, nous ne savons pas, nous prenons le tremblement de Tahiti, nous ne savons pas. C'est le tremblement de Tahiti est dû à une volonté divine, mais à une règle de base qui sont les plaques tectoniques. Je veux dire, celui qui habite dans un endroit où il n'y a pas de plaques tectoniques, il n'aura jamais de tremblement de terre. Donc ça n'a rien à voir avec la volonté des divines. Si vous êtes sous une maison qui va tomber, si elle vous tombe dessus, on va dire c'est Dieu qui avait tombé la maison sur moi, donc il y a une raison. Donc il y a des éléments comme ça qu'on appellerait des éléments naturels qui se réagissent, qui font l'élément. Et c'est-à-dire que même quand un élément vient et qui est un deuil, la perte d'un ami, il est évident que ces personnes-là qui ont perdu des enfants et des trucs comme ça sur les tremblements de terre, on peut regretter la mort, mais de dire pourquoi Dieu a pris mes enfants, on arrive dans un élément qui évidemment va nous sortir de la foi parce que ça, il nous l'a donné, il les reprend. De toute façon, si on continue à vivre, on finira bien un jour par mourir. Donc il y a une règle naturelle de la vie sur Terre, c'est qu'il y a un début, il y a une fin. Alors, le début, on ne le sait pas, avant qu'il se manifeste. Et même quand une femme est enceinte, on ne sait pas si elle va accoucher réellement d'un enfant ou pas. Donc Vous savez qu'en règle générale, maintenant la médecine est très avancée, on sait, la femme est beaucoup plus souvent enceinte qu'elle le croit. Que souvent l'œuf est fécondé et n'aboutit pas, ou l'œuf est fécondé et la fécondation aboutit, mais elle le perd avant de se rendre compte qu'elle est enceinte, elle le perd pendant le premier mois ou pendant le deuxième mois, et ainsi de suite. Donc, en règle générale, on dit qu'une femme qui a des relations normales pendant toute sa vie, elle est à peu près 20 à 25 fois enceinte dans sa vie, aboutissent ou n'aboutissent pas. Donc, même certains médecins, je me rappelle que j'ai eu un colloque où il apportait un chiffre un peu plus grand, de l'ordre d'une centaine ou de 150. Donc, j'ai pas de truc, mais maintenant c'est admis dans ce fait-là. Donc, ça, c'est de la prédestination. Donc, tout élément de doute sur ces six principes de la foi sort. Alors, maintenant, est-ce que se poser une question est un doute? Non, parce que le début de la question, c'est le début de la découverte, c'est le début de la compréhension. Donc, tant qu'on ne remet pas en doute, c'est-à-dire tant qu'on ne dit pas, le doute ne devient, il prend pas la charge, on se pose des questions, il est clair que cela n'est pas un élément, n'est pas un élément qui va sortir de la foi. Par contre, il est évident que nous, dans les éléments de la foi, on doit en tout le temps essayer de vivre ça du point de vue de la foi. C'est-à-dire que ce n'est pas, les éléments de la foi ne sont pas un élément de raisonnement ou des axiomes que nous devons accepter comme étant des réalités. Bien sûr, elles sont des réalités, mais elles doivent se traduire dans la vie de tous les jours par une importance dans notre vie. Je crois en Dieu, ça n'a aucune influence sur ma vie. Où est la foi? Je suis footballeur, mais en fait je ne monte jamais sur un terrain de foot pour jouer. Je ne peux pas me dire que je suis footballeur. Il est évident que ça doit avoir une influence dans la vie de tous les jours. Donc tous ces éléments doivent être tous les jours assimilés, se concrétiser dans la vie de tous les jours. Il est évident, par exemple, quand on parle, par exemple, on prend l'élément des enfants, quand on explique la foi aux enfants, un truc comme ça, l'histoire des anges. Certains parents ne veulent pas en parler parce que c'est complexe. Enfin. Mais je veux dire, on dit bien aux enfants que le Père Noël existe. Donc, la réaction de dire non, mais c'est, les enfants ne comprendraient pas et tout, on leur prend un truc complètement inventé, on leur dit le Père Noël existe et les enfants ils y croient. Si on élève nos enfants en disant les anges existent, ben ils n'ont pas besoin. Après, ils vont se dire, ouais, voilà, il y a évidemment des éléments qui existent et qui ne forcément ne les voyons pas.
Ouais. Le doute, il existe partout.
Ah oui, oui, non. Mais
même pour un bon religieux.
Oui, oui, non, mais le doute existe toujours. Le doute, il y a plusieurs niveaux du doute. Il y a le doute qui vous a éloigné, il y a le doute qui va reconforter. Ouais. Je vais pas douter de l'existence de Dieu, mais je vais le mot n'est pas adapté, mais de sa proximité, la proximité de Dieu, c'est autre chose que de son existence. C'est-à-dire si je doute l'existence de Dieu, il est évidemment là que j'ai un problème de foi. Mais si c'est un problème de proximité, est-ce que je suis proche de Dieu ou est-ce que je m'éloigne de Dieu? Et évidemment que ça, c'est des doutes qui ne remettent pas en cause les éléments.
Il y avait aussi quelque chose qui était fait par un gars qui est un théologien de
la première heure.
Mais il disait à un certain moment, il parlait justement que c'était comme les pains dans le sable, hein, les pains dans le sable, c'est-à-dire que tant qu'il voyait deux pains, il était au pain, il disait il voit deux pains dans le sable, c'est-à-dire que Dieu marche avec moi, et puis à un moment il n'y a plus qu'un pain dans le sable.
Oui, voilà. Bon. Il y a un doute.
Hein. Voilà, il y a un doute.
Exactement.
Elle a dit, mais quand, là, tu m'as laissé tout seul, Dieu. Elle a dit, non, je t'ai pas laissé tout seul, je te portais.
Oui,
voilà, en gros, c'est ça.
Oui,
hein,
ouais.
C'est...
Mais c'est un doute parce que justement il est devant une situation qu'il ne comprend pas, il est évidemment qu'il doit se poser la question.
C'est pas Mère Teresa qui avait des doutes à une époque?
Mais tout le monde,
tous les fois,
tous. Mais c'est pas les doutes dont on parle, c'est-à-dire qu'ils remettent pas Dieu en existence et tout, mais ils remettent en existence leur propre rapport avec l'existence de Dieu. C'est un peu comme avec la prédestination, vous savez, la compréhension de la prédestination, c'est une chose qui est très difficile à admettre. Pourquoi ? Parce que ça va à l'encontre de notre pensée, c'est un peu l'histoire que j'ai racontée, on va en profiter pour... si on a encore du temps d'en parler aussi ici. C'est l'histoire de quelqu'un qui est un jour dans une inondation, il y a une grande inondation et tout, et son voisin vient lui dire il faut partir parce que là vraiment l'eau il va monter, on va mourir noyé et tout. Alors il lui dit non, je pars pas parce que moi j'attends que Dieu me sauve. Et donc il essaie de le convaincre, il veut pas, il part, il dit j'attends que Dieu vienne me sauver. Donc il part, les eaux continuent à monter, là il y a des caravanes, une caravane qui passe avec des chameaux, des voitures, comme vous voulez, et ils descendent, ils viennent lui dire, écoutez, on vient d'apprendre que les eaux vont monter à un tel point que tout va être submergé et tout, donc on a encore de la place, on vous propose de vous sauver vous, vos meubles et tout. Alors il dit, non, j'attends que Dieu me sauve, il essaie de le convaincre, il veut pas. Donc l'eau continue à monter, monte, il monte sur le toit et tout, il est à la limite d'être englouti, et il y a quelqu'un qui passe en barque. Il lui propose de le sauver, de le faire monter dans sa barque pour le sauver. Il dit non, j'attends que Dieu vienne me sauver. Et l'autre il part et il finit par mourir, noyé. Donc il arrive devant Dieu, il est en colère. Il dit, je comprends pas, moi je suis quelqu'un qui a la foi tellement profonde et tout, j'attendais que tu viennes me sauver, t'es pas venu. Alors Dieu lui dit, je t'ai envoyé ton meilleur ami pour te convaincre, t'as pas voulu l'écouter, je t'ai envoyé une caravane pour te sauver toi et tes meubles, t'as pas voulu les écouter, après je t'ai envoyé à la fin une barque pour te sauver de tout, alors que tu devais comprendre qu'il y avait plus d'autres solutions, et t'as pas voulu écouter, qu'est-ce que tu veux que je te fasse de plus? Donc c'est un peu ça, c'est notre rapport à l'écoute de Dieu par rapport à la réponse. C'est-à-dire que les interprétations, je perds mon enfant. Oui, je perds mon enfant. Mais est-ce que c'est une punition de Dieu ou c'est une chose naturelle? Il est évident que c'est dans la généralité, dans la vie de tous les jours, c'est pas normal que les enfants meurent avant les parents. Mais est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive dans plusieurs cas. Vous savez, de nos jours, je pense à une jeune fille qui perd son enfant, je l'ai vécu moi-même, une des membres. Elle a perdu la tête pendant 3 ans. Le refus que son enfant meure. Et c'est surtout l'aîné, le plus intelligent, le plus gentil, le plus affectueux. Enfin, il avait toutes les qualités, c'est celui qui meurt. Mais si nous prenons, revenons une quarantaine d'années en arrière, mes grands-mères, ils en ont perdu 4, 5 des enfants, et c'était une chose, on gardait la moitié des enfants, sinon le tiers. C'était une chose tout à fait naturelle. Mais c'est pas parce que maintenant la médecine elle a fait des progrès qu'on ne va pas continuer à avoir des mères enfants, des enfants. Donc on ne faut pas considérer que la mort d'un enfant est une punition de Dieu. C'est la voie naturelle. On en perdait beaucoup plus avant qu'on en perd maintenant. Donc vous comprenez que ça ne se résume pas entre punition et récompense. La vie sur terre, ça se résume en des épreuves que nous devons surcharger pour montrer notre proximité de Dieu et notre amour pour lui. Et un vrai croyant va dire tout ce qui m'arrive c'est quelque chose qui est de la volonté de Dieu et c'est pour mon bien. S'il pense que tout ce qui lui arrive c'est pour son bien, il en sort toujours plus fort. Les épreuves nous sortent toujours beaucoup plus fort. Et Dieu nous aime. Il y a une histoire que j'aime particulièrement. C'est un des compagnons qui avait, par la volonté divine, ça c'est évidemment, toutes ses supplications étaient acceptées de Dieu. Donc dès qu'il demandait quelque chose à Dieu, ça se réalisait automatiquement. Parce que le prophète avait fait un dora pour lui. Bon, c'est une grâce divine, hein, que toutes ces preuves. Et à la fin de sa vie, il devient aveugle. Et les gens continuent, ils viennent lui dire mon fils est malade, demande à Dieu de le guérir. Il dit, il fait une prière, Dieu guérit l'enfant d'un tel, et le temps qu'il rentre à la maison, son fils était guéri. Une femme ne pouvait pas se marier, il disait, elle allait voir, il faisait une prière, il y avait des bonhommes qui venaient la demander en mariage. Enfin, tout était accepté. Puis un de ses compagnons, il lui dit, je ne comprends pas. Alors il dit, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il lui dit, mais toi, tu as vraiment toutes tes invocations à Dieu, sans Dieu les accepte. Alors pourquoi tu ne lui demandes pas qu'il te redonne la vue? Parce que si tu vas lui demander de te redonner la vue, il va te la redonner. Toutes tes supplications sont acceptées. Alors la réponse est très intéressante, je vous propose de la méditer chez vous. Il lui dit, pourquoi je vais refuser une chose que Dieu a acceptée pour moi? Voyez la proximité de Dieu. Dieu a voulu que je devienne aveugle, pourquoi je vais refuser sa volonté? En lui disant, non, ta volonté, redonne-moi des yeux, redonne-moi ma vue. Dieu l'a accepté pour moi, pourquoi moi je vais le refuser? Donc c'est ça, là, voyez la puissance de la foi dans la vie de tous les jours. Et très important que cet élément-là, le doute, là, c'est pas une histoire de doute. On a le doute qui va nous sortir complètement le truc, mais le doute de tous les jours, de croire que ceci ou cela, je ne suis pas près de Dieu, je n'applique pas Dieu, je ne suis pas présent dans ma prière, je ne suis pas assez attentif à ma famille, je ne suis pas assez engagé dans ce que je fais, ça c'est très important. D'accord? Le dernier donc des éléments de la mécréance, c'est ce qu'on appelle néfar, c'est l'hypocrisie. Alors là, c'est le summum du coffre, le néfar, c'est-à-dire celui qui fait montrer à l'extérieur qu'il est un bon croyant et en fond de lui il n'y croit pas du tout. Donc, et le Coran, pour montrer la dangerosité de ça, parce que ça a une influence sur la société. Le Coran il dit innal munafiqin, donc ceux qui ont innal munafiqin fi d-dark al-asfal min an-nar wa lam tajid lahum wakila. Les hypocrites sont dans le niveau le plus bas, c'est-à-dire le plus terrible de l'enfer. C'est-à-dire que celui qui ne croit pas en Dieu, il est au-dessus de lui. Et lui, il est en dessous. Il est en dessous, dans le niveau. Parce que lui, il fait montrer la foi, alors qu'au fond de lui, il ne croit pas. Et évidemment, ça se renforce, c'est très bien compréhensible. Avec quand le prophète est arrivé à Médine, on avait une partie des gens qui, par politique, sont convertis à l'islam. Mais qui, en fin de compte, n'était pas croyant du tout, mais c'était par intérêt personnel. Alors, il montrait, il venait faire la prière avec les gens et tout, et derrière, évidemment, il combattait. L'histoire la plus intéressante de celle-là, c'était une des personnes qui était les plus hypocrites. Alors, il avait une manière, un peu. Là où on montrait un peu son orgueil et tout, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait dans la prière du vendredi, il se levait dans la mosquée. Il se mettait debout et tout. Il disait, voilà le prophète de Dieu, saluez-le, glorifiez-le. Enfin, il faisait des salam alaikum, comme on disait ici, pour que les gens, truc. Après, il s'assait. Et chaque fois que le prophète, il vient, il se lève là. Et le jour de la bataille de Badr, donc où les musulmans ils ont perdu, en fait ils ont perdu la bataille à cause de lui, parce que dès que ça a commencé à tourner mal, il a demandé aux armées de rentrer. Il a dit bon, on a perdu la bataille, allez rentrer, on rentre. Donc il est rentré. Ils ont perdu la bataille à cause de lui, parce qu'il a démoralisé toutes les troupes. Il est revenu avec la moitié de l'armée en fait. Donc quand il a vu qu'il n'y avait plus de trucs, il a dit bon, c'est pas la peine. Et la bataille de Badr, c'était un mercredi, et le vendredi suivant, donc il y avait la prière du vendredi, donc le prophète est rentré, il s'est levé comme d'habitude, voilà le prophète de Dieu, et les gens ils ont commencé à le tirer, à dire « assis-toi, tu n'as pas à dire tu devrais avoir honte de dire des choses comme ça ». Alors il est sorti de la mosquée et les gens lui ont dit, mais pourquoi tu sors? Il dit, vous vous rendez compte? Moi, je soutenais leurs copains. Il parlait du prophète dans cette manière. Il le reconnaît. Je soutenais leurs copains. Et maintenant, il me le reproche à moi. Mais je ne veux plus croire à cette religion. Oui. Voilà, ça c'est de l'hypocrisie pendant un certain nombre, et des hypocrites on en a bien sûr et évidemment tout. Mais par contre, une chose très importante, Les musulmans, c'est vraiment, faites attention à ça, les musulmans ne jugent que par l'acte. C'est-à-dire qu'une personne qui se dit musulmane, je le considère comme un musulman, même si j'ai des doutes sur son hypocrisie, sur son sincérité. Même si j'ai la conviction à 100% que c'est un hypocrite, je dois me comporter comme avec un musulman. Je ne fais pas différence entre quelqu'un qui a la foi très forte. Pourquoi ? Parce que je ne juge pas ce qui est dans le cœur. Je ne peux pas voir ce qu'il a dans son cœur. Ça, c'est sans rapport avec Dieu. Moi, je juge par l'apparence. Mais par contre, si j'ai des doutes, je peux prendre des précautions. Imaginez que quelqu'un, je veux dire, un hypocrite, enfin, moi que je pense qu'il est hypocrite, vient demander la main de ma fille, je ne vais pas la lui donner. Ça, c'est mon droit. Rien ne m'autorise. Il vient me demander de l'argent, me prêter de l'argent, je lui donne. Pourquoi ? Parce que je pars sur le principe que c'est un bon musulman, il va me le rendre. Donc, il y a un niveau où je mets en danger quelqu'un, je l'évite, parce que j'ai des doutes, et le niveau général où je le considère comme un bon musulman et je me comporte avec lui. Et je laisse ça à Dieu. Tous ceux qui se déclarent bons musulmans, je dois les considérer comme bons musulmans. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Donc nous, je récapitule. Donc le premier, c'est celui de renier l'existence de Dieu. Le deuxième niveau, c'est le refus de reconnaître Dieu. Le troisième niveau, c'est l'orgueil. Le quatrième niveau, c'est l'opposition, c'est de la neutralité, de dire ni j'y crois, ni je m'oppose. Le cinquième niveau, c'est le doute. Et le dernier niveau, c'est l'hypocrisie. Donc ça, c'est les six niveaux de la grande mécréance. Alors maintenant, la petite mécréance. Alors, la petite mécréance, c'est-à-dire celle qui ne nous fait pas sortir de la religion là, mais qui aminuise, qui ronge notre foi de l'intérieur. Alors, celle-là, elle comporte tous les éléments qu'on peut pas la restreindre en l'islam, on ne peut pas la cerner, la petite mécréance. Pourquoi? Parce que c'est tous les éléments du comportement social pour établir une communauté de bien. C'est-à-dire que l'islam a pour but de faire un être humain sain, responsable, dans une communauté saine et responsable. Tout ce qui va nuire à ça va rentrer dans le coffre. C'est-à-dire nuire à son voisin, médire sur les gens, ne pas respecter sa parole. Tous ces éléments-là vont rentrer dans... Pourquoi ? Parce que c'est des éléments qui grignotent petit à petit. Ils vont grignoter petit à petit l'individu et après on n'a plus. Pour vous donner un exemple, on vient de voir le prophète, quelqu'un vient lui poser la question à propos d'une femme. Il lui dit, voilà, c'est une femme vraiment très bien, elle passe ses journées en jeûne, elle jeûne tous les jours, elle passe ses nuits en prière et elle est très proche de Dieu. Elle fait tout pour se rapprocher de Dieu en prière. Mais elle a un petit défaut. Un tout petit. Elle dit du mal de ses voisins. Elle dit du mal. Donc elle dit, ils lui ont pas dit, elle fait du mal à ses voisins. Ils ont dit, elle dit du mal. Elle dit du mal. Ta'zijiranaha bilisaniha. Elle dit du mal de ses voisins avec sa langue. Donc c'est pas en acte. Alors le prophète, il dit, la khayra fiha hiya min ahl an-nar. Il n'y a aucun bien en elle, elle est des gens de l'enfer. Il n'y a aucun bien, vous imaginez, aucun bien. C'est-à-dire que il a pris tout ce qui est adoration de Dieu, il a dit que ça n'existait pas. C'est grave. Donc il est évident que c'est pas une mécréante. On ne va pas dire que c'est une mécréante. Même si le prophète a dit qu'elle est des gens de l'enfer. Mais on ne peut pas dire qu'elle est mécréante si elle croit en Dieu, en ses prophètes, les éléments de la foi. Mais sa foi, elle ne sera jamais complète et probablement elle sera punie pour cette médisance-là. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est une musulmane qui normalement devrait finir au paradis, mais elle sera punie dans l'au-delà le jour du jugement pour tout le mal qu'elle a commis. évident que ça sert. Et ça, c'est tous les éléments de... Je dis tous les éléments qui viennent perturber la société et réduire le but final d'avoir une société avec des êtres sains dans un élément sain, il est évident que tout ça conduise à ce que la foi soit rongée, et donc on rentre quelque part c'est un peu du coffre. Un élément aussi, par exemple, c'est de croire, par exemple, à la sorcellerie, à la magie noire, ou des trucs comme ça. Il est évident que... alors, bon, dans la communauté musulmane, on a deux groupes un peu de ça. C'est vraiment des gens qui croient à la sorcellerie, et d'autres qui vont utiliser des formes de sorcellerie pour se rapprocher de Dieu. Il est évident que les deux sont condamnables. Les deux sont condamnables. Oui, c'est ça. On sent le mauvais œil avec des talismans et des trucs comme ça. C'est tout ça, c'est de la sorcellerie. Ça rentre dans le... Mais ça, c'est... Tout ça, c'est c'est de la petite mécréance. Alors, la petite mécréance la plus importante, il est évident, c'est de dire d'un musulman, enfin d'un type qui se prétend musulman, une des grandes catégories de la mécréance. C'est-à-dire les six éléments qu'on a vus avant, c'est de dire toi tu ne crois pas en Dieu, toi tu renies Dieu, toi tu doutes du prophète, c'est ces six éléments-là. C'est-à-dire en fait c'est de lancer la mécréance sur quelqu'un d'autre. Ça c'est une grande mécréance. Des petites mécréances, c'est celle qui est le niveau le plus haut. Alors le prophète il a une parole qui est un peu floue, mais qui devrait quand même suffisamment être importante pour nous mettre en peur. Il dit celui qui lance la mécréance sur quelqu'un, même kafara akhuhu musliman faqad ba'a bihi ahaduhuma, l'un des deux l'est. Celui qui lance la mécréance, l'un des deux l'est. C'est-à-dire que c'est ou celui qui l'a lancé ou celui qui l'a... Mais l'un des deux l'est. L'un des deux est mécréant. Donc, en règle générale, si on dit à quelqu'un qui est un musulman, on imagine que c'est un bon musulman et que moi je le traite de mauvais musulman, forcément c'est moi qui suis hors de l'islam. Donc c'est quelque chose de très important. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu tajiduhu ghafuran rahiman wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.